du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin, ATSA, quand l'art pense à l'action, vous invite à Paradis fiscaux, l'état d'urgence. Une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, Désorceler la finance, le camion vide poche, le cœur en colère, le radis fiscal de ATSA. Assistez à une conférence de Alain Deneau. Impliquez-vous comme bénévole. Du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin, soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les règles de l'art.
T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le cabaret festif de La Relève, volet concours du festival, est de retour pour une 8e édition. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix. Plus de 15 000 $ en prix et en bourse, une visibilité à la hauteur de ton talent, la chance de te produire chez les meilleurs diffuseurs au Québec et la plus belle route vers ta carrière de rêve. Visite le www.lefestif.ca/cabaret et présente ton projet jusqu'au 22 novembre. Le cabaret festif de La Relève, une présentation de Sirius XM et Derry Télécom.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10 $ prix régulier, 7 $ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berri-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Hey, c'est la 20e édition des RIDM.
Les RIDM?
Oui, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Le festival où l'on retrouve des films engagés, captivants, aux démarches singulières.
Il y a aussi des essais expérimentaux et des courts-métrages. Un festival qui nous fait découvrir le monde.
Et nous fait rencontrer des cinéastes.
Les RIDM, c'est une foule d'activités et une salle dédiée aux projets interactifs.
En plus, il y a des shows gratuits au quartier général.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 9 au 19 novembre.
Là où toutes les histoires se rencontrent. Rendez-vous sur RIDM.ca.
What a dang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode 157 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et aujourd'hui, sans plus tarder, donc je vais entrer directement dans le sujet. On s'est rendu compte récemment qu'on avait fait à Pop en Stock deux émissions sur Sherlock Holmes. Donc une vraiment sur Sherlock Holmes, le personnage de fiction, et une autre qui était en fait la espèce de soutenance un peu improvisée du mémoire de Sarah Grenier qui portait sur Sherlock Holmes la figure du détective, mais aussi sur la série de la BBC, Sherlock. Et moi qui suis une très grande fan d'Agatha Christie, on a fait... Ben voyons donc, on n'a pas encore fait d'émission sur Agatha Christie, c'est quoi cette affaire-là? Une grande, justement, du roman policier. Et pourquoi 157 épisodes, pas d'Agatha Christie? Il faut remédier à ça.
C'est donc inacceptable.
C'est inacceptable. Et on est ici aujourd'hui pour remédier à la situation. Agatha Christie, on va te faire justice à Pop en Stock. Parce que c'est le roman policier est un peu aussi omniprésent dans l'imaginaire populaire. On ne l'aborde plus nécessairement de façon aussi directe. Sauf, par exemple, Sherlock Holmes, évidemment, qui est partout en ce moment. Là. Donc, il y a eu la dernière saison de Sherlock en janvier 2017. Elementary joue encore. Il y a une nouvelle saison qui ressurgissent. Et récemment, après, on ne sait pas trop... On a oublié de regarder avant d'arriver en ondes, mais après un long hiatus d'adaptation filmique et télévisuelle, évidemment, d'Agatha Christie, il y a eu le film Murder on the Orient Express, donc le meurtre de l'Orient Express, qui vient de paraître au cinéma la semaine dernière, la semaine d'avant, je suis plus sûre. En tout cas, moi et Stéphanie, qui on vous avait entendu crier en studio.
Crier ma rage, ma colère.
Donc, on a fait nos devoirs et on est allé voir le film hier, qui est une excellente adaptation, soit dit en passant. Pas un excellent film, objectivement parlant, mais une excellente adaptation d'Agatha Christie. Et aussi, pour sa première fois en studio, je suis vraiment très contente que tu sois aujourd'hui. André-Philippe Lapointe, qui a terminé une maîtrise donc en études littéraires à l'UQAM et qui vient de commencer un doctorat en études littéraires à l'UQAM aussi. Bonjour André-Philippe.
Bonjour, merci Mégane pour cette présentation.
Je suis vraiment contente que tu sois là ici parce que tu es quand même assez actif dans le milieu universitaire ici. Puis c'est la première fois que tu viens à Pop en Stock, donc... C'est la première fois que tu fais de la radio aussi?
Oui, c'est la première fois absolument. Je suis content que ce soit une émission comme ça parce que j'ai commencé à lire avec deux auteurs, Rowling évidemment et Harry Potter, mais aussi Agatha Christie. C'est elle qui m'a vraiment fait aimer lire parce que j'avais pas le choix de bien lire, sinon je passais à côté de plein d'indices et ça arrivait très mal à la fin.
Ah, moi aussi, c'est elle qui m'a donné l'amour de la lecture.
Ah, moi c'est pas elle, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup pareil. Mais oui, J.K. Rowling, à notre âge, j'ai 25 ans, donc on a tous été marqués par elle. Et Agatha Christie, c'est elle qui m'a redonné l'amour de la lecture quand j'étais au cégep. En fait, parce que quand j'étais au secondaire, je voulais être cool, alors je lisais pas de livres, sauf Harry Potter. J'avais beaucoup d'amis, mais j'ai pas lu de livres. C'est vraiment triste. J'aimerais ça revenir en arrière.
Dommage, choisi. Il me semble que les livres, c'est plus intéressant que les amis.
Je sais. J'aimerais ça avoir une machine dans le temps, revenir en arrière, dire à la Mégane de 12 ans, non, les amis, c'est pas important. Lis, continue.
Ah, mais tu vois, pour te pardonner de ton envie d'avoir des amis, moi, j'ai lu Agatha Christie parce que c'était très christinien. J'ai été dans un huis clos en Gaspésie sans amis avec mon oncle. J'avais peut-être 9 ans. Puis la seule chose qu'il y avait chez lui, il n'y avait pas la télévision. Je ne sais même pas s'il y avait l'électricité. Non, j'exagère, il devait avoir l'électricité.
Il n'y avait pas l'eau courante.
Il n'y avait pas de lit. Il rénovait la maison en Gaspésie. Puis, il avait amené des Agatha Christie avec lui. Donc, j'ai lu les 7 cadrans... Et j'avais pas le choix entre des amis ou Agatha Christie, je n'avais qu'Agatha Christie.
Ben, surtout que ça sonne huis clos de la manière que tu parles, donc c'est très intéressant. Et en plus, on est souvent sur le bord de l'eau, isolé dans une maison un peu ancienne. Donc.
Hey, j'étais à Murdochville, là, fait que plus huis clos que ça, c'est difficile.
Toi, les arbres, les roches, Agatha Christie, c'est comme ça que c'est né. Donc, commençons sans plus tarder, mais c'est ça, je recommence. La question, d'abord, c'est... Pourquoi étudier Agatha Christie aujourd'hui, à part que le film est sorti il y a 2 semaines? Pourquoi on fait retour encore à Agatha Christie aujourd'hui? Pourquoi on relit ses livres encore aujourd'hui? Donc, elle est la novelliste la plus vendue encore aujourd'hui partout dans le monde. Elle a gagné le record Guinness, je crois, de la novelliste la plus vendue. Donc, elle est vendue la plus publiée. Et qui a vendu plus de 2 milliards d'exemplaires de ses livres, très foisonnante, donc bibliographie, donc 66 romans, 14 recueils de nouvelles, plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, si je me trompe pas. Elle est aussi la troisième auteure la plus publiée au monde, en fait, auteur, après Shakespeare et la Bible. Donc, ça vous dit à quel point...
Je pense que mondialement, elle dépasse Shakespeare. C'est dans le monde anglo-saxon que Shakespeare la dépasse.
OK, c'est bon.
Mais sinon, il y a juste la Bible.
Mais c'est la plus publiée. Fait que ça doit compter à peu près tout, j'imagine.
Ce qui est intéressant aussi, ça, j'ai été chercher sur Wikipédia. Après, j'ai été dans Intex Translationum. J'ai pas trop compris exactement comment fonctionnait le site, mais ça parle des traductions. Et Christie est de loin la plus traduite dans le monde. Elle a un chiffre de 7236, alors que Jules Verne, qui est le deuxième, a 4551 et Shakespeare qui a à peu près 4300.
Wow, quand même.
Pratiquement le double de ces deux-là. Et après, on descend généralement en bas du 4000.
C'est très impressionnant. Donc, pardon. donc Agatha Christie, donc c'est l'auteur la plus foisonnante. Et pourquoi on n'en parle pas plus que ça dans les médias audiovisuels, si je peux dire, parce que c'est un peu ça aujourd'hui l'hégémonie. Donc le cinéma et la télévision prennent plus de place que la littérature et le théâtre, disons-nous-le. Et on voulait commencer premièrement, pourquoi on parle vraiment plus de Sherlock Holmes, oui, il est arrivé avant, mais et un petit peu moins d'Hercule Poirot, qui, on s'entend en comparaison, n'est pas un héros aussi charismatique que Sherlock Holmes, mais qui a eu vraiment plus d'importance, je dirais, individuellement chez les gens. Donc, je vous lance la question. Pourquoi pas... pour ou contre Sherlock Holmes, Hercule?
Tu veux commencer?
Mais j'avais... Ben, Hein? Est-ce que t'avais...
Là, on est dans un silence malaisant.
Non, moi, j'ai des trucs pour ça, mais...
Mais oui, non, je te laisse, je vais rebondir. Okay. J'ai des choses à dire, mais je...
Juste pour répondre, je préfère beaucoup plus Hercule Poirot, personnellement, que Sherlock Holmes, que je trouve par moment un peu ennuyant dans son sorte d'excentricité à l'extrême. Je trouve Hercule Poirot souvent beaucoup plus réaliste, un peu coléreux, presque capitaine ad hoc par moment, tellement il reproche à plein de choses. Il arrive souvent durant ses interrogatoires de traiter la personne d'abruti, de dire « Ah ben vous avez fait quelque chose peut-être de pas très intelligent, mais honnêtement, je ne suis pas très intelligent de toute façon, donc c'est tout à fait logique que vous ayez fait ça. » Parce que je trouvais intéressant avec la relation qui unit Sherlock Holmes et Hercule Poirot, c'est le fait que comme Hercule Poirot est venu après Sherlock Holmes, souvent, ça arrive dans plusieurs livres qu'il va en rire. Genre, il va comparer Sherlock Holmes. Oui, vas-y.
Il y a comme un méta-discours qui s'installe un peu
tout à fait. Entre les deux, là. Il va vraiment rire de ses méthodes qui est d'aller chercher souvent des petits objets un peu partout. Quand il y a des objets dans Galaxie, ça arrive, mais souvent, ils sont sur le lieu du crime et très faciles à trouver. Et Hercule Poirot compare des personnes comme Sherlock Holmes ou des simples détectives normales à des chiens. Et lui, comme le chasseur, il y a des chiens qui vont faire pour lui le travail qui n'est pas très intéressant de se promener partout à quatre pattes, à trouver des objets en se servant de leur odorat, et lui permet de concorder tout ça pour arriver au meilleur résultat possible. Comme il dit aussi, ce qui est très intéressant, eux perdent pas leur temps en faisant ça, mais lui, s'il faisait ça, il perdrait son temps parce qu'il est capable d'aller beaucoup plus loin et de connecter beaucoup plus d'indices ensemble.
Avec les petites cellules grises.
Avec les petites cellules grises, sa psychologie, etc.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais aussi une idée là-dessus, c'est que aussi Sherlock Holmes est vraiment figuré, en tout cas, peut-être pas dans les récits de Conan Doyle en tant que tel, et sûrement que Sarah Grenier, qui est pas là aujourd'hui, mais pourrait mieux vous en parler, mais c'est pas de ça qui est question, mais il est vraiment plus figuré comme un super-héros, surtout à cause du professeur Moriarty, qui est son super-vilain, si on veut. Exactement. C'est peut-être pour ça que c'est une représentation qui séduit un peu plus les lecteurs et les téléspectateurs, auditeurs et compagnie. C'est une représentation Sherlock qui s'adapte mieux à notre...
Mais c'est une esthétique aussi qui s'adapte mieux dans les médias parce que ça touche plus le fantastique, ça touche plus l'horrifique, donc qui est moins littéraire seulement parce que Agatha, c'est quand même juste, c'est des énigmes, un jeu dans lequel on se pose en huis clos. C'est difficile de construire un film dans un huis clos, contrairement à, tu sais, on peut le faire en pièce de théâtre, mais comme tu disais, le théâtre est moins populaire. Alors que Sherlock Holmes se déplace, même si c'est pas lui qui va tout faire, il est un peu... Tu sais, il est quand même plus dans l'action,
dans le déguisement. C'est le maître du déguisement, donc il peut se transformer, se métamorphoser littéralement en quelqu'un d'autre.
Puis il touche à plus de genres aussi. On peut adapter Sherlock Holmes en faisant quelque chose de fantastique, on peut l'adapter en faisant quelque chose d'un peu ésotérique, en restant dans le concret d'un détective. Il est comme un plus grand, il est plus malléable peut-être, il est plus versatile et impressionnant.
Alors que Poirot, par sa rigidité, nécessairement, il peut juste apparaître dans un roman d'Agatha Christie ou une histoire d'Agatha Christie. Très rigide, là, donc...
Vraiment, puis aussi, comme tu disais, on peut faire plein de choses avec les histoires de Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes, au fil du temps, est vraiment devenu un personnage iconique. Je veux dire, on voit Data avec une pipe et une cassette et on comprend très bien quel personnage il symbolise.
C'est mythique,
La moustache de Poirot, ben bon, est mythique et emblématique. Au final, je sais pas trop... Quel autre signe on pourrait y donner, à part que c'est un Belge, mais même souvent le monde pense que c'est un Français. Ils disent, ah non, finalement, vous êtes Belge, OK, c'est pas trop facile.
Mais la moustache est quand même assez caractéristique. Dans le dernier film, ils lui ont donné la splendeur qu'elle aurait dû avoir dans le premier crime de l'Orient Express.
J'ai lu que c'était la plus grande déception d'Agatha Christie, qui trouvait que c'était une bonne adaptation, excepté pour la moustache, qui était mal représentée parce que pas assez exubérante.
Oui, c'est ça. Donc la moustache est quand même un signe assez distinct. Il y a aussi la description qui revient le plus dans les romans, c'est ça doit être en forme d'œuf. Il y a un beau rappel dans le film qui vient de sortir, qui mesure les œufs pour voir s'ils sont exactement... Il commande des œufs à la coque au début du film, puis là, il les mesure pour savoir s'ils sont à la même hauteur et s'ils ont la même forme.
Un souci du détail dont Agatha Christie aurait été fière.
Et voilà. Mais juste rebondir un peu sur... justement, cette question du théâtre-là que tu as abordé très brièvement, Stéphanie, mais... pour parler d'une de ces des trucs les plus impressionnants que j'ai lu récemment sur elle, que j'étais pas au courant, mais que maintenant c'est rendu ma nouvelle passion, c'est sa pièce de théâtre qui s'appelle The Mousetrap, qui joue, en fait, qui a gagné, la pièce de théâtre qui joue depuis le plus longtemps de façon consécutive, donc le plus grand nombre de représentations consécutives au théâtre. Et donc, elle a commencé le 18 novembre... non, pardon. Elle a commencé en novembre 1952 et elle joue encore depuis en Angleterre. Et c'est quand même une pièce de théâtre qui est très ritualisée, donc... Je m'explique. C'est quand avant sa mort, Agatha Christie a pensé à tout, et notamment à qu'elle allait mourir et qu'il fallait que. Mon Dieu, c'est la saison des rhumes.
Inquiétant, tu penses à quelqu'un qui va mourir, puis on commence à tousser. Je me dis, c'est vraiment inquiétant, elle peut être empoisonnée. Mais là, enfin, on est trois, donc ça va mal pour toi si jamais on meurt tous les deux. Ça.
Mais prenez exemple sur Agatha Christie et justement, pensez à à vos petits-enfants et à la suite de vos œuvres, si vous en avez écrit. Et qui va gérer toute cette popularité-là et tout cet argent-là? Parce qu'elle, elle a fait ça. Et avec la pièce de Mousetrap, elle a... en fait, il y avait deux contrats. En fait, un contrat et deux clauses. Le premier, c'est qu'elle avait écrit une nouvelle qui était une extension un peu de la pièce. Et la nouvelle stipulait qu'elle ne pouvait pas être publiée tant et aussi longtemps que la pièce allait jouer au théâtre. Le problème, c'est que la pièce joue toujours au théâtre depuis 1952. Et en fait, la pièce ne pouvait pas être publiée en Angleterre. Il y a un loophole. Ils l'ont publiée aux États-Unis. Tout va bien. Donc, vous pouvez aller la lire. Le titre, c'est Three Blind Mice. Donc, c'était le nom de la pièce initialement. Ils ont demandé de changer le nom parce qu'il y avait une pièce avec le même titre qui avait joué avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, maintenant, il fallait la lire dans un recueil de nouvelles qui a été publié. Et l'autre clause du contrat disait qu'il ne pouvait pas avoir d'adaptation filmique de la pièce de théâtre au moins 6 mois après que la pièce ait arrêté de jouer. Le problème, c'est que la pièce joue encore. Donc, on ne pourra pas avoir cette pièce-là au théâtre. Vous pouvez l'avoir sur YouTube, des enregistrements filmés de la pièce de théâtre que je vais aller voir après l'émission. C'est comme la première chose que je vais faire. Parce que il y a quelque chose de spécial, puis que je trouve ça quand même cool de pas savoir la fin aujourd'hui. Puis c'était quelque chose de très très cher à Agatha Christie que la fin de ses romans et surtout la fin de la pièce de théâtre ne doit pas être révélée à ceux qui ne l'ont pas vue. Et c'est stipulé quand tu vas voir la pièce, ils disent essayez de vous contenir, puis dites pas la fin aux autres s'il te plaît. Puis ça fait depuis 1952 que les gens en fait. Garde le secret. En même temps, le petit-fils d'Agatha Christie était très, très déçu de voir que la page Wikipédia spoilait la pièce. Mais au moins, c'est pas en premier, là, c'est à la fin. Fait que si vous voulez voir le spoiler, vous pouvez aller lire la page Wikipédia. Vous pouvez la voir, la pièce.
Mais Agatha Christie va se revirer dans sa tombe.
Ah oui, elle se revire à chaque fois que quelqu'un lit la page Wikipédia. Là, non,
c'est ça, la plupart des pages Wikipédia font un résumé détaillé et très complet où tu as la finale. Ça me permettait, quand je voulais vérifier si j'avais lu d'Agatha Christie ou pas, d'aller lire puis de voir, oui, peut-être. OK, oui, clairement, je l'ai lu.
Mais c'est impressionnant comment elle a un souci de la fin parce que elle a des clauses pour cette pièce de théâtre-là. Elle a fait une compagnie pour gérer sa succession, dont une partie revient, je pense que c'est 36% revient à sa famille. Puis elle a aussi, tu sais, fait des finales à ses détectives les plus célèbres pour s'assurer que personne après elle écrirait des histoires sur elle et eux. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point elle avait une conception assez forte de sa propre fin.
Oui, c'est vrai.
Comme pas juste comme à quel point c'est important de clore les choses bien. Parce que bref, c'est un lancé de même. On va pas analyser.
Non, mais en même temps, tu as tout à fait raison dans la mesure où souvent, quand je veux... comme évaluer si j'aime un Agatha Christie ou pas, c'est vraiment dans la fin. Si la fin me déçoit, j'aurais pas aimé l'œuvre au complet. Et si j'aime la fin, je vois que tous les éléments fonctionnent entre eux et à quel point je me suis fait jouer ou à quel point j'ai réussi. Mais souvent, j'ai pas vu tous les éléments, même quand j'ai découvert qui était le coupable et à peu près la méthode.
C'est peut-être aussi parce qu'elle écrivait des nouvelles beaucoup, et puis dans les nouvelles, la fin, à l'époque surtout, était vraiment importante, la chute.
Mais il y a aussi, en fait, parce qu'il y a des fins vraiment plus mémorables que d'autres. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire parce que je lis très, très vite. Surtout les Agatha Christie, ça, je les dévorais, là. Donc, c'est ça. Puis il y a des livres que la fin n'est pas très mémorable. C'est pas un gros twist de fin comme celle de Mousetrap, par exemple, qui est très, très célèbre. Et qui a été comparé souvent à la fin du Sixième Sens ou ce genre de film-là. Okay. Donc, il y a des fins que je me souviens pas du tout. Je relis le livre. Je pense que Le Vallon, j'ai lu à peu près 5 fois, puis je sais toujours plus c'est qui. J'ai complètement oublié. Je vais sûrement le relire, puis comment ça va me revenir, mais comme, de même, à chaud, je peux pas vous dire c'est quoi la fin. je vous la dirai pas non plus.
Tu te l'écriras puis tu la mettras dans ton livre pour la prochaine fois que tu le commences pour pouvoir.
Mais non, mais en même temps, c'est... moi je trouve ça le fun parce que je peux relire le livre puis encore être surprise.
Mais pas si la fin est pas mémorable. Je veux dire, si tu m'avais dit ça, mettons pour le Noël d'Hercule Poirot que j'adore, là, effectivement, ça serait génial, mais. Surtout en plus, souvent, on passe énormément de temps sur ses fins. C'est souvent des 20-30 pages où elle va refaire l'histoire de tous ses personnages. Et comme souvent, il y en a une dizaine, c'est quand même assez long. Oui, il y a des coups de théâtre. Oui, c'est plus long à cause des dialogues, mais quand même, il y a énormément de contenu dans ces moments-là.
Oui, mais moi, je trouve ça intéressant que tu amènes cette idée-là parce que c'est pas juste des coups de théâtre. C'est littéralement une mise en scène à la fin. Chaque fin est une pièce de théâtre, un peu comme Hamlet, là. Donc, dont le titre Mousetrap vient aussi, là. Donc, c'était un peu le faux titre de la pièce de théâtre dans Hamlet, là. Donc, c'est pas le vrai titre de la pièce de théâtre, mais c'est comme ça qu'il la désigne. C'est un peu un indice pour dire qu'ils vont piéger le spectateur. Et ouais, c'est ça, pour revenir à ça, c'est que chaque fin, surtout les fins avec Hercule Poirot, où il ramène tout le monde dans le salon, puis là, il fait son exposé, où tout le monde écoute. C'est très théâtral, là. Donc, il y a vraiment des liens à faire entre les deux genres, donc le théâtre, le roman ou la nouvelle, par exemple. Donc, c'est super intéressant, mais il y a aussi... Moi, je trouvais ça intéressant de lire que dès son époque, c'est parce qu'on a tendance à associer tout le phénomène du spoilers à quelque chose de très contemporain, mais au contraire, ça existait, c'était très présent à l'époque, puis elle avait justement le souci de pas spoiler, c'est ça. Comme des objets rares, il faut pas les briser, il faut... Oui, c'est ça. Donc, il y a des fins pas mémorables et il y a d'autres qui sont très mémorables et qu'on peut difficilement oublier. Donc, de toutes ces... Moi, j'identifie les trois œuvres. Ben, en fait, il y a son premier...
grand succès.
C'est le premier grand succès, c'était And Then There Were None, c'est-tu ça, là?
Non, c'est Le Meurtre de Roger Ackroyd en 1926.
OK, c'est bon. Oui, c'est ça, Le Meurtre de Roger Ackroyd. Donc, la fin est difficilement oubliable
Est-ce qu'on a le droit un peu de divulgâcher ces trois-là?
En même temps, 1926, là, si tu l'as pas lu...
Non, ben...
On va vous avertir.
Il y en a toujours, mais peut-être pas toutes les Hercules, parce que là, il y en a plein qui, effectivement...
Ouais. OK, mais si on est pour en parler, je vais juste faire un avertissement.
Non, exactement.
Donc, on va vous dire la fin, fait que si vous l'avez pas lu... Vous pouvez arrêter d'écouter.
En fait, vous pouvez pas, vous devez, parce que sinon, encore une fois, Agatha va se revirer, dans sa tombe.
Ouais, ça doit pas être le fun, vu l'imagination qu'elle avait, cette femme-là.
OK, ben, interrompez le podcast tout de suite. Allez à la bibliothèque, allez emprunter le livre, ou l'acheter, ou je sais pas.
Là, vous faites pause, puis après, vous referez play quand vous aurez fini les
podcast,
trois livres.
Vous allez pouvoir recommencer exactement où ce qu'on est rendu.
Aussi, c'est la question, pourquoi vous nous écoutez si vous avez pas lu ces trois-là d'Agatha Christie? Je veux dire, il y a des trucs beaucoup mieux à faire de votre temps.
Mais non, ils vont apprendre plein de choses, mais avant, faut aller lire.
Oh oui, clairement.
Mais la magie du podcast, c'est ça. On peut reprendre là où on est arrêté.
On se revoit après la pause.
Donc, une petite pause. Faites votre décision, là. C'est important. OK? Ceux qui restent, l'ont lu, là.
Bon. On en était où? Le premier succès d'Agatha Christie.
Donc, la fin du Meurtre de Roger Ackroyd.
Dès le début, on peut commencer à suspecter parce qu'enfin, il y a quelque chose de très spécial qui se passe, une narration vraiment très différente de toutes ces auteurs. Si on en a déjà lu, et moi, c'était probablement le 20e que je lisais, donc je voyais déjà qu'il se passait quelque chose de tout à fait anormal. Quelqu'un est en train de narrer les choses.
Mais ça arrivait souvent parce qu'on avait, depuis même à la première aventure d'Hercule Poirot, il y avait le capitaine Hastings qui est un peu le Watson de Hercule Poirot. Donc, c'est lui son compagnon. Il écrit ses histoires, il raconte ses histoires. Mais là, c'est ça, comme on le voit, c'est pas une narration à la troisième personne, c'est une narration à la première personne. Et c'est un des personnages du livre, donc un docteur. J'ai oublié son nom. Le docteur. Donc, il nous raconte, c'est un peu comme son journal intime. Très détaillé.
Il me semble même aussi qu'il dit qu'il va faire ce journal-là pour potentiellement aider Poirot, pour bien mettre tous les faits, étant donné que c'est un docteur, il peut avoir un esprit très méthodique.
Oui, puis c'est une personne noble, c'est un docteur, exactement. Donc c'est quelqu'un de confiance.
Une figure d'autorité.
Oui, exactement. Mais donc c'est ça, il y a le docteur qui narre, à peu près à la moitié du livre, il remet ses manuscrits à Poirot, il lui fait même des petites carte avec un X pour qu'il soit bien conscient de toute la spatialité des lieux. Et ça fait très Tolkien, ça aussi, de mettre des cartes. Mais c'est plus sommaire.
C'est quand même très important. Par exemple, il y en a un qui se passe dans l'avion et mine de rien, ils sont très tassés. Même dans un L'Orient Express, on a beaucoup plus de place dans un avion. C'est vraiment tout le monde à côté. Mais la manière qu'ils sont placés est très importante pour l'énigme. Donc, on a vraiment le petit plan qui accompagne pour savoir où est chaque passager. Parce que selon où ils sont placés, ils peuvent avoir vu des choses ou pas avoir vu certaines choses.
Oui, c'est ça. Donc, c'est le docteur Shepard. Mmh. Et donc, à la fin, après avoir épuisé toutes les possibilités, Hercule Poirot se retourne vers le docteur et dit « Vous m'avez menti, c'est vous le meurtrier. » Et là, on fait comme « Ah, quoi? »
Coup de théâtre.
Coup de théâtre. Comme Agatha Christie sait si bien le faire. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un des premiers cas qui subvertit vraiment les codes du roman policier parce que pour avoir un jeu fair, donc pour avoir du fair play, c'est très anglais là, comme concept, là. Il faut avoir tous les éléments. Et là, on nous a menti pendant tout le récit. Et après, il faut revenir. Ça aussi, c'est l'intérêt de relecture. Donc, revenir et trouver tous les indices qui nous pointaient dans la direction. En même temps, on peut pas les trouver parce que le récit est faux.
Mais en même temps, c'est le jeu policier, c'est de mettre suffisamment de tromperies et suffisamment de règles pour qu'on ait des chances, tout en ce que ce soit très difficile. C'est ce qui est assez génial de ces œuvres. Mm-hmm. J'ai vraiment très de la misère, c'est à peu près un tiers de réussite. Donc, et pourtant, je connais ces règles, je veux dire, je suis rendu à probablement 25.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, elle joue sur les préjugés, sur des doubles conceptions préjudicielles du lecteur, qui est d'un côté les préjudices sociaux. Un médecin, par exemple, on fait confiance à ça, tandis qu'une personne raciste, des fois, il y a peut-être plus d'enjeux, surtout le lecteur de l'époque.
Ah,
il va s'en méfier alors qu'il n'y aurait pas de raison de s'en méfier techniquement, à part selon ses préjugés. Puis de l'autre côté, il y a toute l'histoire du genre. Donc, on a des préjugés dans le roman policier. Comment un roman policier ne devrait être construit?
Tous les codes qui ont été un peu... est-ce qu'il s'est arrivé à plusieurs reprises? Comment ça s'appelle le code?
Attends, je l'ai imprimé parce que les règles, le décalogue de Knox...
Agatha Christie ne suit pas du tout.
Mais c'est rare que les romans policiers suivent ces codes-là, mais en même temps, on dirait que c'est un peu dans l'imaginaire populaire de faire « Ah oui, mais les meurtriers ne peuvent pas être des domestiques, par exemple, parce que tous les settings de romans de détection, de l'âge d'or du roman de détection où Agatha Christie écrit, c'est vraiment dans des milieux de bourgeoisie très élevés,
mais
les lords anglais et compagnie. »
Mais on peut se demander si le code, le décalogue de Knox n'a pas été écrit à cause d'Agatha Christie, parce qu'il était écrit en 1929, alors que le meurtre de Roger Ackroyd est imprimé en 1926. Donc, est-ce que Ronald Knox, c'est comme ça qu'on prononce son nom, en tout cas?
Knox?
Knox. Il a lu le meurtre de Roger Ackroyd, puis il s'est dit, non, là, on dupe les lecteurs et lectrices, c'est vraiment pas correct. Je vais faire un code de 10 règles pour figer les conventions.
Il était vraiment fâché de s'être fait avoir.
en même temps, je comprends que c'est très fâchant. J'ai été très fâché par les deux autres, mais celui-là, c'est celle que j'ai eu des trois, donc c'était pas si dur. En même temps, on est beaucoup plus habitué aujourd'hui, comme tu disais, à ce que ça puisse être un médecin. Je veux dire, il y a tellement, par exemple, de Columbo qui l'ont fait.
Mm-hmm. Oui, puis à l'inverse, on rentre moins dans ces tromperies de préjudice, parce que c'est une personne noire, on va pas nécessairement l'accuser, nous, tandis qu'à l'époque, les préjugés étaient différents, ou une personne pauvre, ou bref, nos conceptions sociales sont différentes, fait que notre lecture, le jeu avec nous est différent aussi.
Exactement, puis toutes les techniques narratives sont beaucoup plus fréquentes. On a eu beaucoup, par exemple, d'œuvres écrites au-dessus qui s'adressent directement à nous, de personnes qui sont peu fiables, en fait, narrateurs peu fiables. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez courant aujourd'hui.
Oui, mais elle se base un peu toujours sur cette non-fiabilité-là, parce que Poirot, comme détective, on se demande s'il est fiable tout le temps. Tout le monde est toujours en train de le remettre en question. Il est toujours en train de reprouver sa crédibilité. Il parle mal.
Il se présente comme le célèbre monsieur Hercule Poirot, détective Hercule Poirot, mais comme, est-tu vraiment célèbre? C'est qui, lui? Il est un peu weird.
Non, c'est ça. Puis rendu très vieux aussi, on dit souvent, peut-être qu'avant, il était meilleur, mais aujourd'hui, OK, là, c'est rendu justement une enquête, il sait plus trop ce qu'il fait, il a pris de l'âge, etc. Parce qu'il me semble, même dans ses premiers, il est déjà assez vieux.
Oui, il est déjà assez âgé.
Puis tout le monde est toujours en train de dire qu'il est belge. Puis là, bon, les gens ont des préjugés sur les Belges. Puis ça continue à fonctionner parce que même si nous, on a perdu certains de ces préjugés-là, on se dit qu'Agatha Christie les avait. Donc, est-ce qu'elle a construit ses récits en fonction de ses propres préjugés?
C'est ce qu'on se demande toujours en analysant. C'est très dur parce qu'il y a plein de personnages qui vont dire eux-mêmes vieux jeu. Par exemple, Hastings va dire des propos par moment assez décourageants sur les femmes. Mettons, j'aime que les femmes soient féminines. Mais il va le dire tout d'après, je sais que je suis vieux jeu et que même à mon époque, ça mérite pas d'être tenu, ce genre de propos-là.
Mais je pense qu'elle était plus sévère envers les personnes racisées, mais elle avait vraiment un discours proto-féministe, je peux dire, là, parce que c'était pas féministe, mais ça s'en rapprochait. Elle a été quand même élevée par des femmes, par sa grand-mère, par beaucoup de femmes fortes. Oui, j'ai lu Le Vallon 5 fois, mais dans Le Vallon, il y a une personnage qui est très, très intéressante. C'est une artiste travailleuse autonome qui ne veut pas se marier. Donc, il y a beaucoup de personnages féminins qui se détachent de toutes ces conventions-là très bourgeoises, aristocratiques, anglaises, qui sont très, très rigides. Donc, il y a beaucoup de commentaires sur le corps des femmes, mais en même temps, il y a des femmes qui essaient de s'en libérer.
Mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup... Tout est un jeu de conventions sur le genre policier ou sur les conventions sociales. Puis, il y a une évolution là, dans les livres d'Agatha Christie. Si tu lis le premier livre, la représentation qu'on fait des gens est très différente de ces derniers livres. Hérisser le poil sur les bras des fois ces premiers livres, dans les derniers, les représentations sont plus contemporaines. Fait que pour l'époque, elle essaie de s'adresser à des gens qu'elle présuppose un peu libérales.
Oui.
Puis il me semble que ces œuvres ont quand même été écrites sur 30-40 ans. J'ai pas fait l'abstraction exacte, mais c'est vraiment sur une longue période. D'ailleurs, on le voit parce que maintenant, elle a fait des voyages et on s'en va beaucoup plus au Moyen-Orient. Mais ce qui est aussi intéressant avec les femmes, c'est qu'on a souvent l'idée des personnages vont dire non, ça peut pas être des femmes, ils seraient pas assez fortes. On a vraiment l'idée plutôt de la carrure. Il y a des hommes qui sont chétifs, il y a des femmes qui ont pas la force, et il y a des femmes qui auraient la force et des hommes qui auraient la force. Donc, tout le monde peut faire un meurtre. C'est quand même assez intéressant.
Mais ça, oui, on y reviendra, là, toute cette question-là. Bon, on peut l'aborder tout de suite parce que ça a un peu rapport avec ce que tu dis, Stéphanie, sur les conventions sociales. C'est que, oui, c'est en huis clos, mais il y a quelque chose de très particulier à Agatha Christie, c'est que tout le monde peut faire un meurtre et pour des raisons très terre-à-terre, très pragmatiques. Donc, il y a toujours... le mobile du crime est toujours super...
Simple.
C'est simple. C'est des tromperies, c'est des adultères, des testaments,
du chantage,
des questions d'argent, oui, c'est ça. Donc, ça reste toujours très terre-à-terre, alors que, par exemple, pour faire la comparaison avec Sherlock Holmes, il n'y a pas de Moriarty qui veut dominer le monde, il n'y a pas de complot politique, parce que ça revient souvent à la politique avec son frère qui travaille pour le gouvernement. Donc, il n'y a pas toute cette idée-là où qu'il y a il y a une organisation du mal et nous, on tient le bien, mais c'est plus une affaire qu'on essaie de voir le vice chez toutes les personnes, même celles qui nous paraissent les plus impeccables.
Mm. Bien sûr, le seul truc que je trouve complètement irréaliste, c'est vraiment le concours de circonstances qui fait qu'on se ramasse toujours avec 15 personnes à peu près qui sont toutes en train de mentir. Tu vas avoir une réunion de famille où il y a deux personnes
mais
qui simulent.
Qui ne ment pas dans ces réunions de famille?
Non, mais je pense que c'est ça aussi. Je pense que l'affaire, c'est pas un concours de circonstances, c'est que c'est pour révéler que tout le monde a son secret, tout le monde a un petit secret à cacher. Oui, c'est sûr que là, ça commence à être beaucoup de secrets.
C'est aussi une dynamique de jeu, une manée. On n'a pas à y croire nécessairement,
non,
dans mesure où on sait qu'il va y avoir un meurtre à peu près tel moment, on sait qu'il va y avoir à peu près tel pattern.
Oui, il va y avoir des interrogations, il va y avoir des entrevues, il va y avoir une marche dans la cour arrière, dans les jardins bien entretenus, il va y avoir découverte d'un couple qui devrait pas être un couple ou ce genre de choses-là.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'assassin est toujours sorti de ses conditions sociales pour être juste un assassin qui a tué quelqu'un parce qu'il avait un peu ça dans le sang, de se venger à ce point-là quand il se passe quelque chose dans sa vie, mais ça sort de toute... son mobile est simple, puis la raison pourquoi il le fait est simple, c'est parce qu'il est capable d'assassiner les gens alors que toutes les autres personnes dans la salle ne serait pas capable.
Ouais. Il y a aussi beaucoup l'utilisation du poison, donc qui est une arme un peu détournée où on peut tuer. Agatha Christie avait travaillé pendant longtemps. Je trouve ça vraiment intéressant parce que sur sa page Wikipédia, on parle de travail gratuit parce qu'elle a été infirmière pendant la guerre et il mentionne qu'elle a travaillé pour rien. Donc, c'est pour dire que le travail des femmes était vraiment pris pour acquis à l'époque. Donc, elle a travaillé beaucoup, justement, dans les hôpitaux et elle avait une très bonne connaissance des poisons et elle le met à profit dans ses romans, là, aussi.
Mais
là,
il me semble aussi qu'elle dit que tout le monde peut tuer, c'est juste que tout le monde ne tuera pas de la même méthode. Mm-hmm. C'est juste qu'il y en a qui vont le faire de façon très détournée parce qu'il n'y aurait justement pas le sang-froid de le faire. Mais tout le monde pourrait, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, tout le monde peut être suspect.
Oui,
sinon, ça éliminerait du monde.
Mais tout le monde peut être suspect, mais à la fin de l'enquête, quand c'est résolu, il y a une seule personne qui est capable de tuer. Dans la pièce, ces autres personnes-là sont innocentes. Oui. Ils ne tueront jamais de leur vie. Là.
C'est ça. Toi,
c'est quand même une...
T'es dans une situation désespérée ou peu importe, ou il y a une situation problématique dans ta vie, mais c'est pas toi qui as tué parce que t'as un bon fond. C'est souvent ça qui ressort aussi, là, quand il fait justement ces scènes d'exposition à la fin où il révèle les secrets de tous et chacun et que il y a une seule personne qui a commis le meurtre, sauf, spoilers, dans le crime de l'Orient Express, où tout le monde a commis le meurtre, sauf le directeur des trains et Poirot.
Il y a aussi 10 petits qui est quand même assez spécial dans sa construction, étant donné
Ben, on va préférer le titre en anglais.
Ah, pardon.
Désolé. Mais en fait, je veux juste faire un commentaire, parce que je trouve ça très frustrant qu'il n'ait pas traduit.
Non,
il a changé le titre en anglais, mais il n'a pas été traduit en français. Donc, en anglais, le titre est devenu « And then there were none ». Et en français, on a gardé le titre original qui est inspiré la comptine, qui est dans le... Donc, et le nom de l'île aussi sur laquelle ils sont. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dira, c'est quoi, et puis, il n'en reste plus aucun.
Il n'en reste plus aucun.
Ça va être ça le titre pour le temps de l'émission. Parce que.
Oui, puis on espère plus tard.
Et qu'on espère
que ça va être le titre tout court.
Ouais, il reste à réaliser ça éventuellement. Ouais. Ce serait génial.
Livre de poche, come on, là. Faites quelque chose.
Surtout que c'est quelque chose qui est vraiment lu au secondaire. Souvent, il est dans les bibliothèques pour les cours.
Mais
c'est
oui.
Quelque chose de
et
très
on l'a mentionné au début, c'est la plus publiée, là. On peut dessus, hein? Arrivé en 2017.
Je pense que ça va être rentable dans leur argent si en... s'ils changent quelques mots.
Fin de la parenthèse. Qu'est-ce qu'on disait?
Ah oui, bon, tu allais parler de « N'en restera plus aucun », c'est ça?
Oui, ben c'est justement... on a un autre, encore une fois, pattern vraiment très étrange dans la mesure... Bon, on a le ville des vulgacheurs où il y a 10 personnes qui sont sur une île. Et on comprend assez rapidement que l'un d'entre eux est le coupable, mais il n'y a pas de détective neutre qu'on va pouvoir suivre plus gentiment, ce qui permet quand même, d'une certaine manière, de paver la voie à notre réflexion. On doit vraiment regarder.
C'est nous, on devient un peu le détective dans cette situation-là.
On n'a pas le choix, étant donné qu'on est dans un univers de suspicion qui fonctionne très bien avec un huis clos. C'est vraiment très oppressant. Mm-hmm. Autant les autres, on sait qu'il y a certaines figures intouchables. Petit à petit... On se demande vraiment comment ça va finir. On a une sorte d'imaginaire de la fin. Mm-hmm. On se demande comment tout le monde va pas mourir, mais techniquement, il devrait rester un survivant, étant donné qu'il y a un criminel.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc, c'est ça qui est très intéressant.
C'est intéressant, c'est vrai.
Mais puis en même temps, c'est toute une réflexion sur l'analyse littéraire, parce que sans lire rien de l'œuvre, on pourrait juste analyser la comptine, puis deviner c'est qui le meurtrier. Parce qu'il y a assez d'indices dans la comptine elle-même.
Ouais, c'est ça. Chaque façon de tuer est inspirée d'une ligne de la comptine, parce que la comptine va où il y a... Il y a 10 personnes sur l'île. Ben, c'est comme une comptine. Il y en a 10, puis à chacun, il y en a un qui disparaît, là, qu'on dit, là. Donc, ouais. Et chacun est associé à une phrase de la comptine. Donc, il y a le red herring, il y a je sais plus quoi, là.
Et il y en a un qui se fait tuer par une piqûre d'abeille.
Ah oui,
exactement. Mais c'est toujours intéressant, c'est parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas sur l'île. Mm-hmm. Des choses qui dépassent, comme par exemple, il y en a un qui va être tué par un ours. Évidemment,
oui, c'est
une statue d'ours qu'on a éventuellement décrit, mais c'est intéressant parce qu'on se demande comment chaque mort va avoir lieu, étant donné qu'il y a plein de choses qui se passent pas. Puis le dernier, en plus, c'est un pendu.
Mm-hmm. Donc, c'est ça. S'il y a un suicide à la fin, comment le meurtrier est mort? Mais là, il nous l'explique. Et aussi, la réponse à savoir qui est la personne qui est le meurtrier est dans la comptine. Donc, c'est quoi la phrase? Je sais plus si
moi, je me souviens plus par cœur de la phrase, mais on comprend qu'il y a un mensonge puis qu'il y a un subterfuge au cours qui est même dit dans la comptine. Donc, il y a quelqu'un qui s'y fait.
C'est comme le jeu. Je vais à la Cour suprême et quelque chose, là. Je pense que c'est ça parce que c'est le juge. C'est pas là. Bon, on vous l'avertit tantôt. Si vous avez pas lu, je sais pas pourquoi vous êtes encore là.
Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on passe pendant un certain moment qui est mort. En plus, il y a un docteur, toujours la figure d'autorité, qui confirme sa mort. Finalement, parce qu'il y a eu une alliance entre les deux personnages, qui est quand même vraiment très intéressant de la manière que c'est amené.
Oui, c'est ça. Mais oui, puis c'est aussi que la fin est pas dans le récit. En fait, la révélation du meurtrier est pas dans le récit, c'est par une lettre qui est laissée, donc ça fait le très manuscrit trouvé.
Exactement, sorte d'épilogue.
Oui, c'est ça.
Le récit convient pas, et je sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais fini de lire celui-là, parce que j'étais comme... Je comprends absolument pas ce qui s'est passé, parce qu'on voit petit à petit que ceux qui restent ont pas le comportement d'un criminel. Ils ont vraiment complètement paniqué parce qu'ils sont de moins en moins et ils se rendent compte.
Et pourtant, ils sont tous. Parce que la raison pourquoi ils sont tués, c'est parce qu'ils ont tué, mais là que la justice a pas réussi à les attraper, alors que c'est un juge qui décide de les tuer. Donc, c'est un jeu là-dessus aussi. Là.
C'est aussi...
un peu comme dans le meurtre de l'Orient Express, quand on découvre que, dans le fond, c'était un jugement qui a été mal fait, qui a causé la mort de d'autres personnes. Donc là, on a le droit de se venger.
Ouais, c'est ça. Là. Il y a, dans ces deux romans-là, vraiment précisément, il y a vraiment un discours sur les... c'est pas le système de justice, mais la justice qui est faillible.
Non, exactement. C'est intéressant dans la mesure où la majorité des Hercule Poirot, c'est seulement par l'arrestation du criminel, alors que dans ceux-là, on voit 9 personnes qui ont été complètement innocentées, ou qui ont même jamais été suspectées, parce que, par exemple, un était un général, ou en tout cas, un haut gradé militaire, et il a juste envoyé son inférieur se faire tuer.
Mais c'était l'amant de sa femme, alors c'était voulu. Mais
non, clairement.
Ou la personnage qui se pend à la fin, c'est qu'elle a essayé de sauver un petit garçon, mais qu'elle l'a laissé se noyer parce qu'elle voulait avoir l'affection de, je sais plus qui, là, c'était son frère, ou je sais plus quoi, là. Donc, tu sais, c'est tout des crimes détournés, des crimes trop bien orchestrés qui ont échappé à la justice et que le juge a décidé de faire justice.
C'est quand même une très belle critique sociale parce qu'un d'eux est notamment coupable d'avoir laissé mourir, je pense, à peu près une vingtaine d'indigènes pour se sauver avec la nourriture. Mm-hmm. Et lui, il déclare très naturellement, genre, ah, ben, eux n'ont pas la même conception de la vie et de la mort que nous, donc c'était pas très grave, je veux dire. C'était pas des personnes si importantes que ça, ils n'ont pas souffert de toute façon.
Oui, c'était...
Ce qui est effectivement très dérangeant parce qu'en plus il dit avec un sang-gêne absolu.
Oui, mais c'est un personnage un peu reckless, là, je ne sais pas comment le dire en français, mais ouais, c'est ça. Il s'en fout un peu de la vie ou de la mort. L'important, c'est qu'il est très centré sur lui-même.
Puis en même temps, c'est toute une réflexion sur la peine de mort. Quand que tu tues seulement par crime, quand ton mobile n'est pas juste, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, alors que quand que tu as causé toi-même un crime, là, la peine de mort, vu qu'elle est institutionnalisée ou on ne sait pas, parce que même si elle n'est pas institutionnalisée puis qu'on la cause dans un train ou sur une île, là, ça devient plus pardonnable de poser...
Si on n'est plus dans les espaces institutionnalisés, on est dans d'autres espaces, espaces de justice personnelle.
Mais ça reproduit quand même un schéma institutionnel, contrairement au criminel ordinaire qui va tuer sa femme.
Mais en même temps, de mémoire, le juge, de la manière qu'il a pensé ses exécutions, parce que tout est prévu d'avance, il a vraiment envisagé l'expérience comme une sorte de purgatoire, étant donné que ceux qui ont fait les... Zach, considéré les moins pires par ce personnage-là,
vont mourir
très rapidement pour pas avoir toute la souffrance psychologique qui va avec. Tandis que, par exemple, celle qui avait laissé mourir l'enfant est considérée comme, de loin, la pire mort, alors que celui qui laisse mourir les 20 indigènes est parmi les premiers.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est le premier, puis il meurt très rapidement. Là, il est empoisonné d'un coup sec. Là, c'est ça. C'est lui qui avait le moins de culpabilité et qui avait moins réfléchi à son acte, donc... Mais c'est parce que c'était comme ça. Puis la fille, elle a été poussée au suicide. Donc, c'est quand même assez... C'est de jouer avec, justement, toutes ces émotions-là.
Oui, puis ça joue avec les faiblesses des autres. T'sais, il choisit pas le docteur pour rien, pour mentir avec lui et faire semblant qu'il va enquêter dans l'ombre une fois qu'il est supposément mort, là. Donc, il va jouer avec les faiblesses puis les vices des personnes qu'il veut tuer.
C'est aussi ce que je trouve intéressant dans la Agatha de façon générale, et c'est à mon avis pourquoi c'est quand même très bien vieilli. L'analyse psychologique est souvent assez juste, même encore aujourd'hui. Il y a des fois où on est moins d'accord, je ne sais pas pour vous, mais de façon générale, dans l'ensemble, oui, des fois c'est un élément, mais de toute façon, il y a tellement une accumulation qui fait que de façon générale, on est à peu près d'accord avec comment les personnages ont agi, surtout à l'époque où on les prend.
Oh, mais c'est des constantes, je pense, psychologiques, archétypales, universelles. Donc, il y a toujours... Puis même si à l'époque de la Agatha Christie, ces personnages-là, médecins, avocats et compagnie, blancs, étaient... il y avait un biais un peu, justement, de préjugés. On les a encore aujourd'hui, le veut pas, là.
Oh oui.
Définitivement. Puis je trouve ça bien que dans le film, je me souviens plus si c'est dans le roman, mais je pense que oui, mais je suis vraiment pas sûre. Dans le film du crime de l'Orient Express, il y a tout un commentaire sur le fait... Ben, en fait, cette phrase-là a probablement été ajoutée au film, mais aussitôt qu'ils découvrent le corps, là, ils disent « Ah, il faut alerter la police! » Et là, je sais plus qui dit ça, mais je pense que c'est le secrétaire McQueen qui dit... Ah, ben, ou je sais plus c'est qui, pour vrai. Il dit « Ah, ben, vous avez un homme noir et un homme dont le nom de famille est Marquez, je pense, que donc un nom de famille latin, sur le train, c'est sûr qu'ils vont les arrêter en premier. » Donc, il y a vraiment un commentaire sur, justement, ces préjugés, cette violence policière-là, et c'est d'où la nécessité de demander à Hercule Poirot, comme, agent extérieur, objectif, techniquement.
Pour te confirmer, j'ai vu l'adaptation de 74, j'ai lu la BD, il me semble que c'était aussi le cas dans le livre. Il y a plus peur pour tous ses passagers parce que, en fait, c'est plus...
Il y a peur pour sa compagnie. Si
il y a peur pour sa compagnie, mais il y a peur aussi des méthodes de la police locale, qui n'est pas une police british et civilisée.
Oui, aussi, mais c'est ça, ils ne font pas le commentaire dans le dernier film, mais ils font ce commentaire-là qui s'inscrit parfaitement en continuité avec les problématiques d'aujourd'hui et avec Black Lives Matter et compagnie. Donc, je trouverais ça que c'est un bel ajout pour un film qui, dont le setting est en 1930 dans un train avec des gens très, très bourgeois.
Mm-hmm. Effectivement, c'était l'outlast qui voyageait dans l'Orient Express.
Oui, et puis il y a aussi un commentaire sur le mariage interracial avec la gouvernante Mary qui est en amour avec le docteur qui est l'homme noir. Donc, il y a comme... C'est très ténu, mais pareil, exactement comme dans les romans où il y a toujours le commentaire qui est là en filigrane, mais que le ton est tellement distancié et ironique, et c'est très le flingue anglais et compagnie, qu'on n'aborde rien de façon en confrontation. Donc, c'est toujours de façon détournée que le film est une bonne adaptation des romans pour ça. Là. Donc, on est encore détourné, on est encore ressorti du contexte social. On fait pas le commentaire directement, mais il est là pareil. Donc, c'est ça.
Mais ça c'est, puis tu sais, tout le long, les personnages vont eux-mêmes jouer avec cette idée-là que ça serait le docteur qui serait pris, parce que me semble il se relance un peu toujours la balle autour de lui, toujours en l'excusant là, en faisant, parce qu'ils veulent que personne soit arrêté à la fin, fait qu'ils sont toujours en train de s'entre-sauver.
C'est le docteur dit, ah, moi j'étais avec lui, j'ai pris un verre avec lui jusqu'à 2h du matin, et j'ai pris ouais, c'est ça. Relance la balle.
Il se relance. Puis quand le docteur se sacrifie un peu en disant de toute façon, arrêtez-moi, c'est moi qui ai causé le meurtre. Puis ça revient avec l'amorce où, anyway, la police va l'accuser. Donc, c'est facile sauver sa femme en se faisant passer pour le meurtrier, même si ça n'a aucun bon sens. On a assez d'indices pour savoir que ça ne peut pas juste être lui. Là.
Ouais, exactement. Ben, c'est aussi ce qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas dans le film récent, mais Hercule Poirot propose deux fins différentes.
Ouais,
c'est vraiment
aussi
très amusant, dans la mesure où il commence à raconter quelque chose qui n'a aucun bon sens, on se rend compte dès qu'on lit. Tout le monde est comme, non, ça n'a aucun sens. Surtout, en plus, on est habitué qu'Hercule Poirot a toujours raison, c'est bon, genre, pourquoi il est en train de faire cette forme-là étrange, et ensuite, il dit la vraie. Et de toute façon, même s'il voudrait les accuser, ils sont vraiment majoritaires dans le trait, donc c'est eux qui auraient un problème, éventuellement.
Ouais. Mais je sais plus si c'était dans le livre, mais à la fin du film, il lui dit « Ah ben tu sais, le seul moyen que vous puissiez vous sortir de cette situation-là, c'est en me tuant. » Je sais pas si c'est dans le livre, mais en tout cas dans le film, ils ont rajouté, je sais pas longtemps. Si c'est un ajout, là. Puis il lui offre un fusil à celle qui a tout orchestré justement la réunion dans le train, et il fait comme, ah ben il faut que tu me tues, mais le fusil il était pas chargé, donc c'était une balle à blanc, et elle, au lieu de, je pense que c'était un peu un test aussi, au lieu de tuer Hercule Poirot, elle décide d'essayer de s'enlever la vie, et ce qui résulte qu'il dit, ah ben ces gens-là ce sont pas des meurtriers, ce sont des gens qui veulent une justice.
Parce que ça revient encore là au commentaire d'un assassin, il est assassin dans intrinsèquement, fait que tu sais, pour savoir si c'est des assassins puis des criminels qui devraient arrêter, si on le mal en eux, si on veut, ben il leur donne la tentation de
régler leurs problèmes.
Ouais, voulez-vous vous échapper en me tuant. Bon, on se doute qu'ils s'imaginent déjà que c'est pas des assassins, parce que je pense pas que Hercule Poirot veut mourir.
Il s'aime beaucoup trop pour ça.
Il s'aime beaucoup trop, fait qu'il avait déjà résolu l'énigme avant, il savait que c'était des bonnes personnes. Mais je me souviens plus, moi non plus, si c'est dans le film, dans le livre.
Mais si c'est un ajout, bravo, sinon...
Bon, c'est ça. Bravo. De mémoire, ça apparaît dans aucune des versions que j'ai vues, donc ça doit être un ajout, ce qui est vraiment très bien.
Mais c'est vraiment le test.
Non, c'est ça, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il sait que le criminel est une mauvaise personne parce qu'il refuse de travailler pour lui dès le début. Mais il se le fait proposer. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans le film, avec un coût de 5, 10, 15, 20 000 $.
Il essaie de l'acheter un peu aussi. Là. Donc, il savait que... En tout cas, il n'a pas l'air fiable. En tout cas, Johnny Depp n'a pas l'air fiable là-dedans, puis pas très fiable dans la vie.
Non, ça fait longtemps qu'il n'est plus très fiable, malheureusement.
Mais le temps file, et j'aimerais ça parce qu'on a parlé beaucoup d'Hercule Poirot, mais il y a l'autre héroïne...
Miss Marple, on l'oublie toujours.
Mais oui, c'est ça.
On devrait pas.
On devrait pas oublier Miss Marple, parce que c'est un personnage super intéressant, surtout qui a été créé à cette époque-là, qui s'inscrit dans les conventions de l'époque, mais en même temps qui déstabilise complètement le personnage détective qu'on est habitué, donc, avec Sherlock Holmes. Donc, Miss Marple, qui est une vieille dame, qui vieille fille, si je me trompe pas.
Oui, puis un autre personnage facile auquel s'associer, une personne ordinaire, pas particulièrement charismatique. Ouais.
Qui, elle aussi, s'intéresse à la psychologie des gens.
Non, exactement. Puis elle a aussi sa phrase culte qu'on connaît pas toujours, la nature humaine est partout la même, que j'adore.
Oui, c'est vrai.
Et cette idée-là d'atemporalité, et peu importe le lieu où on est, ce qui va quand même aussi absolument contre les idées de l'époque où, normalement, des personnes en Asie, en Afrique et en Europe n'avaient pas du tout nécessairement la même mentalité.
Mais la nature humaine est partout.
Et partout la même.
La même.
Non, c'est ça.
Mais à revire aussi le stéréotype de la vieille fille, mais comment on dit ça? Mon Dieu, Mégère, c'est ça.
T'allais dire la version québécoise, la germaine.
Non, mais pas la germaine. Tu sais, celle dans un village qui se mêle pas de ses affaires, là, puis qui raconte des potins.
De manière la pie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tu sais, un stéréotype de la vieille fille très négatif. Qui va, c'est qu'il a tellement pas de vie que, vu qu'elle a pas de mari, ben, elle s'intéresse à la vie des autres.
Qui colle porte, qui écoute aux portes,
qui serait très négatif, alors que Miss Marple, une chance qu'elle fait ça.
Parce qu'elle résout des crimes.
Tu sais, sans elle, le monde serait plus dangereux.
Probablement.
Mais en même temps, même les personnes autour d'elle, parce qu'elle reste souvent dans son village, dans son espace, le savent, il y a éventuellement des criminels qui vont jouer là-dessus. Ils vont apparaître devant elle. Et par exemple, ça va être des femmes qui vont porter des vêtements vraiment très légers dans lesquels on verra une arme à feu pour éventuellement se servir de l'arme à feu plus tard. Et là, ils vont être sûrs d'avoir le témoignage de Mrs. Marple qui l'a vu, qui a parfaitement observé tout, parce que tout ce qu'elle voit, elle l'observe. Elle a vraiment un regard, exactement.
Mais c'est un peu, c'est ce qu'elle a à faire, c'est aussi un espèce de penchant d'Hercule Poirot, mais dans l'incarnation c'est d'une femme, une vieille femme aussi, donc c'est un peu son penchant féminin, elle utilise justement ses petites cellules grises, elle aussi, pour réfléchir à la psychologie, et c'est sûr qu'avant de venir à l'émission, on se disait, quel team êtes-vous, donc team Poirot ou team Marple, mais je vous laisse...
Elle est pas chanceuse, Miss Marple, parce qu'elle est tellement cool, mais elle a pas les meilleures histoires.
Je suis vraiment d'accord.
Elle a moins d'histoires aussi, c'est sûr que ça aide pas, mais pour moi, je me souviens pas d'avoir préféré l'histoire de Poirot à ceux de Miss Marple.
En même temps, il y a eu les histoires vedettes, là. Non,
exactement.
Donc, de l'Orient,
c'est sûr que Hercule Poirot en a deux là-dedans. Ouais. Ça l'aide forcément, mais des histoires plus classiques, je pourrais pas dire que je préfère largement proportionnellement ceux d'Hercule Poirot à ceux de Mrs. Marple.
Ouais, j'avoue que les histoires plus traditionnelles, admettons, celles que j'oublie la fin. et un des personnages féminins les plus intéressants qui a été créé, à mon avis, dans le monde du roman policier.
Puis moi, je trouve que c'est un des personnages qui s'adapterait le mieux au cinéma.
Non,
en série télé. En série télé,
ben oui, parce que tu sais, elle est toujours dans son petit quotidien. Oui, on aurait comme un sitcom policier, ça se fait très bien dans le quotidien. On aime aimer les personnages de nos séries télévisées. C'est comme ça que c'est important, le petit quotidien, là, genre Game of Girls. Miss Marple, même combat, là.
Un crossover.
Non, mais je me demandais même, quel, à part Mrs. Marple, on a comme vrai détective, comme mythique. J'essaie d'en trouver. Genre,
mythique?
Non, c'est ça. Autant que, mettons, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Mrs. Marple.
Non, mais je pourrais pas dire. Parce qu'on a les Columbo,
c'est toujours des hommes.
Oui, pas mal.
J'essaie d'en trouver une seule, ça me fâchait un peu.
Et en même temps, Miss Marple tombe vraiment... est vraiment à part parce qu'elle a pas cette figure charismatique là du détective, même si les personnages d'Agatha Christie ne sont pas charismatiques.
Mais Hercule Poirot devient quand même le célèbre détective.
Non,
Hercule Poirot,
ouais, mais
alors...
il est célèbre parce qu'il dit.
Puis aussi une autre chose quand même très différente entre les deux, Mrs. Marple est toujours que simple amatrice. Oui, elle finit par se faire proposer beaucoup de courses parce qu'elle devient renommée, mais elle n'a jamais un comme passé professionnel, tandis que Hercule Poirot, oui, c'est un détective professionnel.
Puis qui sort, tu sais, qui a quand même un schéma très conventionnel de détective, qui fait sa job de détective en analysant les scènes du crime, là.
Il ne se met pas à quatre pattes pour regarder les traces de pas, il est quand même un détective très traditionnel. Là.
Alors que Miss Marple, tu sais, mais c'est ça qui est intéressant de revenir sur le stéréotype d'une femme puis de le déconstruire en faisant quelque chose de productif puis de bien.
Non, c'est ça. Mais c'est aussi qu'on peut faire une généalogie de détective homme avant Poirot, ce qu'on peut pas faire avec Marple, parce que même avant et après, c'est un peu un vide.
Ben ça, il doit en avoir certainement, mais que jamais avec la célébrité de ce personnage.
On avait eu Sherlock Holmes, on avait eu Dupin, on avait eu même dans Voltaire.
Ben, on a la narratrice de Not Dog là au Québec. petit gag là, parce qu'on s'entend que c'est pas le même niveau.
Non
là.
C'est ça.
En même temps Not Dog.
Not Dog, non mais c'est un classique là, classique littérature jeunesse policière.
Et un autre personnage féminin que Agatha Christie a créé et qui est très très cool à mon avis, c'est le personnage d'Ariane Oliver qui est littéralement Agatha Christie dans ses romans. Donc, c'est une autrice de romans policiers qui apparaît, une de ses aventures les plus célèbres, c'est celle qui se passe, j'ai oublié le titre, mais celle qui se passe à l'Halloween. Donc, ils font une kermesse d'Halloween et avec un murder mystery et elle écrit l'histoire et il y a eu un meurtre et là, tout le monde pense. Donc, c'est vraiment toute la méta-référentialité et elle l'utilise aussi un peu pour rire de ses réflexes d'autrice à elle, donc de comment elle verrait le meurtre. Donc.
Elle a aussi deux autres personnages, le surintendant Battle, qui a quatre romans, et aussi un couple, que je ne suis pas sûr d'avoir rien lu deux, mais Tommy and Tuppence Beresford, je ne sais pas si je le prononce bien, mais probablement très mal, mais c'est quand même intéressant qu'elle ait aussi un couple.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que j'ai jamais lu d'aventure de eux autres.
Non, c'est ça. Ça mais, ouais. Dit rien. Je pense pas que ce soit les plus connus, mais c'est intéressant.
Je disais que mon premier livre, c'est Les Sept Cadrans, puis c'est un de ces personnages-là qui mène l'enquête.
Ah, OK, mais je l'ai lu d'abord. J'ai juste complètement oublié.
Je pense que c'est ça, moi aussi. J'avais pas oublié que c'était des personnages.
Ouais. Mais il y a aussi, je l'ai pas mentionné en début d'émission, mais ça aussi, c'était une découverte de mes recherches pour l'émission. Elle écrit 6 romans d'amour. À la suite de son premier divorce.
Sous pseudonyme,
donc le nom de Mary West Macott.
Macott, ouais.
Ouais, ben, West Macott. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est intéressant, c'est ça, c'est après son premier divorce, où son mari la trompait et elle a disparu pendant 10 jours. Donc, la fameuse
histoire de la disparition de l'Agatha Christie.
Qui a été réutilisée par... Doctor Who. Donc, dernièrement, où il nous propose une solution à cette mystérieuse disparition.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé, Megan a fait une présentation là-dessus au colloque de Papa Asta qui vaut vraiment la peine d'être écouté.
Probablement sur les ondes de l'OIC. Donc,
exactement.
Si
c'est archivé, donc ça vaut la peine d'être écouté.
C'est intéressant aussi de savoir l'attachement des lecteurs envers leurs auteurs de romans policiers pour leurs aventures policières, parce qu'on dirait qu'à cette époque, quand t'écris des romans policiers, t'as pas le droit de faire autre chose. Tu peux utiliser un pseudonyme pour essayer de t'en échapper, mais là, finalement, on va retrouver que c'est toi qui as écrit ça, parce qu'il va y avoir une enquête autour de ce livre-là, pour te dire, hey, là, tu viens de commettre un peu un crime toi aussi, retourne aux policiers.
C'est ça, les lecteurs et les lectrices sont très à l'affût.
Ils sont très à l'affût, parce que Conan Doyle non plus avait pas le droit d'écrire autre chose que des aventures de Sherlock Holmes, puis elle aussi elle a publié 5 livres sous pseudonyme, puis elle arrête, pas parce qu'elle veut plus, mais parce que le suspense, l'énigme a été résolue et on sait c'est qui l'auteur.
C'est intéressant aussi parce que pendant ces 10 jours de disparition, Conan Doyle a participé un peu aussi à l'enquête pour essayer de la...
Pas pour vrai?
Oui, en fait, il avait fourni certains éléments.
Mais c'est parce qu'il est médium, je pense, c'est ça?
Oui, c'est vrai.
Il est souvent appelé dans les enquêtes, là, pour...
Donc c'était un auteur de romans policiers qui participe à une enquête sur la disparition d'une autrice de romans policiers. Il y a beaucoup de couches ici à analyser. Là.
Oui, clairement.
Bon, ben, je pense que c'est vraiment très amusant de faire cette émission-là avec vous aujourd'hui. Merci Stéphanie, merci André-Philippe.
Plaisir.
On va wrap it up parce que je pense qu'on pourrait en parler encore pendant longtemps.
Absolument, là, il y a tellement de choses à dire.
Ah oui, mais il va falloir qu'on arrête ici, je suis vraiment désolée. Puis ceux qui ont écouté l'émission puis qui ont eu des spoilers puis qui n'avaient pas lu les livres, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez tout gâché votre expérience de lecture.
Mais là, on espère que ça va faire comme avec l'épisode sur Sherlock Holmes, puis on va revenir, il va y avoir une série sur Miss Marple, parce que c'est ça que je veux. Puis là, on va pouvoir faire une émission sur la série télé Miss Marple.
Mais j'ai vraiment hâte.
J'ai hâte, moi aussi.
S'il y a des grands producteurs qui écoutent.
Y a-t-il des producteurs qui écoutent Pop en stock en ce moment, s'il vous plaît? Un nouvel appel.
Vous avez minimum 3 téléspectateurs ici. Je vais acheter tous les produits dérivés, si c'est ce qu'il faut, OK? Je veux un Funko Pop de Miss Marple. Bon, ben, je vous dis merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en stock. Et bonne soirée, bonne lecture. Allez lire les livres. Je vais aller voir, je vais regarder Mousetrap sur YouTube. Bon, bye bye.